VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 30 avril 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Jean-Roger Billon.
Pour commencer, les titres.
Au Congo-Brazzaville, la suspension contre le parti du pasteur Ntoumi, l'ex-chef rebelle du Pool, a été levée.
En Mauritanie, le pouvoir et l'opposition se joignent à la marche annuelle des anciens esclaves, les Haratines, hier à Nouakchott.
Arrestation d'un ex-militaire américain en pleine préparation d'un attentat djihadiste en Californie, alors que Poway, près de San Diego, se remet difficilement de l'attaque de samedi contre une synagogue.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dénonce une vague d'intolérance après la récente série d'attaques contre des lieux de culte à travers le monde.
Diffusion hier d'une vidéo présumée du chef du groupe État islamique Aboubakar el-Baghdadi pour la première fois depuis 5 ans.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Congo-Brazzaville, le parti de l'ex-chef rebelle Frédéric Binsamou, alias Pasteur Ntoumi, a été autorisé à reprendre ses activités politiques après 3 années d'interdiction. Raïssa Girondin.
Le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Boulou, a adressé une correspondance au pasteur Ntoumi pour lui signifier que son parti pouvait se redéployer sur l'ensemble du territoire. Un proche de l'ex-chef rebelle a confirmé que le pasteur Ntoumi a bien reçu cette correspondance. Frédéric Binsamou, alias pasteur Tata Ntoumi, vit retranché dans son fief du Pool depuis avril 2016. Cette région a été le théâtre de violences post-électorales qui ont éclaté au lendemain de la présidentielle contestée de 2016, remportée par le président Denis Sassou Nguesso. Son parti a été suspendu par les autorités. La crise du Pool a fait plus de 138 000 déplacés. À la fin 2017, un accord signé entre le gouvernement et les représentants du pasteur Ntoumi a mis fin à ce conflit. Depuis, plus de 8 000 armes collectées auprès des ex-combattants ninjas du pasteur Ntoumi ont été détruites.
Au Burkina Faso, une centaine d'avocats ont manifesté hier à Ouagadougou pour dénoncer le blocage de l'appareil judiciaire qui paralyse les activités juridictionnelles depuis octobre 2018. Le bâtonnier des avocats, maître Paulin Salambéré, a déclaré à l'issue d'une marche devant le ministère de la Justice « Il y a à ce jour 808 détenus prévenus qui attendent d'être jugés. » 1640 inculpés détenus dont les dossiers sont en instruction et 3641 condamnés emprisonnés et dont l'application des peines est entravée par les dysfonctionnements.
En Mauritanie, des représentants du parti au pouvoir ont participé pour la première fois hier à Nouakchott à la marche annuelle des Haratines, les descendants d'esclaves qui dénoncent des discriminations. Les leaders de l'opposition étaient aussi au rendez-vous pour cette 6e marche annuelle qui vise à dénoncer la persistance de formes d'esclavage dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Officiellement, l'esclavage a été aboli en 1981 en Mauritanie.
Au Soudan, les leaders de la contestation et les militaires au pouvoir ont tenu de nouvelles discussions hier sur la composition d'un conseil conjoint qui inclurait des représentants de l'armée et des civils. Ce conseil serait l'autorité suprême du pays et sera chargé de former un nouveau gouvernement civil de transition pour gérer les affaires courantes et ouvrir la voie aux premières élections post-Omar el-Béchir, le président déchu. Les discussions doivent se poursuivre aujourd'hui.
En Algérie, le ministre des Finances Mohamed Louka, ancien gouverneur de la Banque centrale, est ressorti libre hier d'un tribunal d'Algérie. Selon la télévision nationale, il a été entendu par le parquet sur des soupçons notamment de dilapidation de fonds publics. Depuis le départ de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, la justice algérienne a ouvert une série d'enquêtes sur des faits de corruption contre plusieurs puissants hommes d'affaires et de hauts responsables de l'État. Les manifestants continuent de réclamer le départ de l'ensemble du système au pouvoir hérité de Bouteflika.
En Ouganda, le député d'opposition et chanteur Bobby Wine a été inculpé hier et placé en détention jusqu'à jeudi. Il est accusé de n'avoir pas déclaré une manifestation en 2018 à Abdourahmane Dia.
Le député a été inculpé avec 4 membres de son entourage, dont son frère. Selon son avocat, Assoumane Bassalirwa, les 5 ont été, de façon surprenante, inculpés pour s'être soustraits à une obligation légale. L'État affirme qu'ils ont organisé une manifestation en juillet 2018 pour dénoncer une taxe contre les médias sociaux sans en avoir notifié la police, a-t-il précisé. Une nouvelle audience a été fixée au 2 mai, date à laquelle les avocats des détenus devraient plaider leur remise en liberté sous caution. Plus connu sous le nom d'artiste Bobby Wine, Robert Kyagulani a été interpellé alors qu'il se rendait à une convocation de la police 48 heures à peine après la levée d'une assignation à résidence de 5 jours. À 37 ans, il est devenu le porte-parole d'une jeunesse urbaine et très souvent très pauvre qui ne se reconnaît pas dans le régime du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. La récente modification de la Constitution supprimant la limite d'âge pour briguer la présidence lui permet de se présenter pour un 6e mandat en 2021.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici, aux États-Unis, les services de maintien de l'ordre disent avoir reçu plusieurs tuyaux sur les menaces postées par le tueur sur les médias sociaux 5 minutes avant l'attaque de samedi contre la synagogue de Poway, près de San Diego, en Californie. Mais souligne-t-il, il n'y avait pas assez de temps ou de détails pour empêcher cette attaque qui a coûté la vie à une femme et fait 3 blessés. L'auteur de la tuerie, John Ennis, est un jeune homme de 19 ans dont les parents ont exprimé hier leur horreur, soulignant qu'ils n'ont jamais inculqué la haine de l'autre à leur fils.
Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé hier la vague d'intolérance qui secoue la planète après ses attaques contre des lieux de culte. Le point avec Eric Manirakiza.
Musulmans abattus dans des mosquées, juifs assassinés dans des synagogues, chrétiens tués alors qu'ils prient, leurs églises souvent incendiées, de tels événements sont devenus trop fréquents, a déclaré Antonio Guterres, qui cite aussi les attaques ce week-end contre une synagogue aux États-Unis et une église protestante au Burkina Faso. Le monde doit prendre des mesures pour éliminer l'antisémitisme, la haine anti-musulmane, la persécution des chrétiens et toutes les autres formes de racisme, de xénophobie, de discrimination et d'incitation à la haine, souligne-t-il dans un communiqué. Pour le secrétaire général de l'ONU, la bataille contre la haine et l'extrémisme se trouve à un moment charnière. D'après M. Guterres, la haine est une menace pour tout le monde et tout le monde doit participer à la lutte ensemble. Présidente en exercice du Conseil de sécurité de l'ONU en avril, l'Allemagne a fait observer hier une minute de silence à la mémoire des victimes des attaques commises contre une synagogue aux États-Unis et une église protestante au Burkina Faso.
Les autorités californiennes ont annoncé hier l'arrestation d'un ancien militaire américain qui tentait d'organiser un attentat près de Los Angeles. C'était, selon lui, pour venger les attaques commises contre 2 mosquées en Nouvelle-Zélande en mars. Mark Steven Domingo, âgé de 26 ans, a été appréhendé vendredi après avoir reçu ce qu'il croyait être une bombe, mais qui était en réalité un engin factice livré par un agent clandestin. Le suspect voulait faire exploser une bombe artisanale lors d'un rassemblement de tenants de la suprématie blanche le 28 avril à Long Beach, au sud de Los Angeles.
Un homme présenté comme le chef du groupe État islamique Abu Bakr al-Baghdadi est apparu pour la première fois en 5 ans dans une vidéo diffusée hier, un peu plus d'un mois après la chute de son califat autoproclamé. Le point avec Morgan Guériec.
La date à laquelle cette vidéo a été filmée n'est pas connue, ni le lieu de tournage. Mais celui qui est présenté comme Abu Bakr al-Baghdadi évoque les attentats pendant la Pâque catholique le 21 avril contre des églises et des hôtels au Sri Lanka. Il y déclare aussi que la bataille pour Baghouz est maintenant terminée en référence à ce village de l'est de la Syrie qui a été le dernier réduit territorial du califat autoproclamé. Dans la vidéo, l'homme affirme que le groupe État islamique se vengera au nom de ses membres tués et que le combat contre l'Occident est une longue bataille. Le Centre américain de surveillance des mouvements extrémistes et l'expert irakien Hicham Hashemi affirme que l'homme qui apparaît dans cette vidéo est bien le leader de Daesh. Le dernier message attribué à Abou Bakr al-Baghdadi était un enregistrement audio diffusé en août 2018. Le chef djihadiste est apparu pour la première et dernière fois en public en 2014 à Mossoul, dans le nord de l'Irak, où il avait proclamé son califat.
Les États-Unis offrent 25 millions de dollars pour la capture d'Abou Bakr al-Baghdadi. Malgré ses défaites en Irak et en Syrie, l'État islamique, le groupe État islamique, continue de commettre des attaques dans ces pays où il garde des cellules basées dans des zones difficiles d'accès. La Minute Éco, Ranit Talami.
La Banque mondiale va octroyer 392 millions de dollars à Madagascar dans le cadre de l'initiative pour l'émergence de ce pays. Ce projet lancé par le président André Rajoel va concerner quatre secteurs: l'aide aux familles démunies, l'amélioration de l'accès à l'électricité, la sécurisation des titres fonciers dans un contexte d'occupation illégale de terres et une aide budgétaire à hauteur de 100 millions de dollars. La Guinée a signé avec la Banque africaine de développement des accords de prêts et de dons de 81,1 millions de dollars en faveur de l'intégration régionale, les transports, la résilience agricole et l'environnement. Ce dernier est lié au programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger et coûtera 218,65 millions de dollars. La Tribune Afrique écrit que ces accords comprennent aussi une aide d'urgence pour l'agriculture d'un million de dollars pour lutter contre l'invasion de la chenille légendaire et réduire les pertes annuelles de production de maïs d'environ 40%, soit environ 300 000 tonnes. Pour terminer, l'État ivoirien a débloqué une enveloppe de 616 milliards de francs CFA pour répondre aux revendications salariales des syndicats. Selon le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, cité par la Tribune Afrique, la Côte d'Ivoire a aussi débloqué 727 milliards de francs CFA pour mener des actions en faveur du bien-être des populations pour la période 2018-2020, avec une priorité sur l'énergie et l'éducation.
Les sports à présent avec Eric Manirakiza. Tottenham affronte l'Ajax Amsterdam ce soir en demi-finale aller de Ligue des Champions.
Ce n'est pas pour gagner une Coupe d'Angleterre ou une Coupe de la Ligue, c'est pour être un vrai prétendant à la victoire en Premier League ou en Ligue des Champions, a dit Mauricio Pochettino, l'entraîneur des Spurs. Il s'est dit optimiste malgré les blessures qui touchent Tottenham, croyant son équipe capable de s'imposer, peu importe avec qui sur le terrain, on doit être prêt, a dit Pochettino.
L'entraîneur de l'Ajax Amsterdam a répliqué, n'est-ce pas ?
Ah oui, on se prépare en fonction de l'adversaire, mais surtout en fonction de nos forces. Erik ten Hag a estimé que son équipe devrait jouer à son niveau du Real de la Juventus pour battre Tottenham. Il faudra marquer car on joue à l'extérieur, on veut continuer. C'est incroyable d'être en demi-finale. Personne n'aurait pu prévoir qu'une équipe néerlandaise sera en demi-finale de Ligue des Champions. C'est super, c'est une motivation. On a atteint quelque chose, mais on ne veut pas se reposer sur nos lauriers. On veut aller plus loin. La planète foot a les yeux rivés sur la jeune garde de l'Ajax Amsterdam qui rêve d'un comeback, tandis que Tottenham rêve d'une première.
Liverpool affronte mercredi le Barça de Lionel Messi.
Les Liverpooliens tenteront de faire un pas vers un sixième titre au cours de cette rencontre depuis plus d'une décennie, qui correspond aussi à leur troisième duel en demi-finale de compétition de l'UEFA. Barcelone et Liverpool ont tous deux 5 Coupes des Champions à leur palmarès et Lionel Messi rêve d'un sixième ballon d'or, un de plus que son éternel rival Cristiano Ronaldo, éliminé en quart de finale avec la Juve.
Ball reste à 100% engagé avec le Real Madrid.
L'agent du joueur gallois a une nouvelle fois assuré ce lundi pour mettre fin aux spéculations autour de son avenir, alimentées par des informations faisant état de relations compliquées avec son nouvel entraîneur Zinedine Zidane. Acheté 100 millions d'euros en 2013, Gareth Bale est engagé avec le Real jusqu'en 2022. Et avec toi Idrissa, quelques résultats de la NBA avant de nous quitter.
En conférence Est, Philadelphie a battu Toronto 94 à 89. Les deux équipes sont à égalité, une victoire partout. En conférence Ouest, Denver a battu Portland 121 à 113. menant la série 1-0.
Bonne journée, Idrissa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Bénin, les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi ont donné hier un ultimatum de 24 heures au président Patrice Talon pour non seulement annuler les législatives de dimanche qui ont connu un faible taux de participation, mais aussi pour présenter des excuses publiques au peuple béninois. Au micro d'Irénée Herman Ungbo, le journaliste et analyste politique Rodrigue Azinombe.
Ça a été un scrutin quand même assez particulier hein, pour le peuple béninois, parce que depuis bientôt 30 ans que la démocratie a droit de citer au Bénin, c'est la toute première fois que des élections, notamment élections législatives, sont organisées avec l'absence des partis d'opposition. Ces partis ont appelé au boycott et il faut avouer que cela a été largement suivi, plus que suivi, parce que dans presque tout le pays, le taux de participation a été très faible, on ne s'y attendait pas. Il y en a qui parlent de 10%, il y en a qui parlent d'au moins de 10%. Et donc on attend d'abord d'avoir les chiffres officiels.
Alors, sans l'opposition, que va devenir la démocratie béninoise, souvent citée en exemple sur le continent?
Ben écoutez, ça c'est la question que tout le monde se pose, parce qu'avec toutes ces tensions, tout ce qui a entouré ces élections, on se demande si c'est réellement du Bénin qu'on parle, parce que personne ne s'attendait à ce qu'une telle situation se pose. Sur les réseaux sociaux, on voit pas mal de commentaires venant d'autres citoyens du continent africain qui se posent des questions concernant cette démocratie. Donc il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi se poser des questions, parce que pour l'heure, on n'est pas sûr que les partis de l'opposition auront ce fameux quitus qu'il faut pour pouvoir participer aux élections à venir, c'est-à-dire les municipales de l'année prochaine et la présidentielle de 2021. Donc il y a de quoi quand même se poser des questions.
Les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi, en compagnie de la doyenne d'âge du Parlement béninois, Rosine Soglo, ont à nouveau réagi. Au lendemain du scrutin, que réclament-ils exactement?
Ben écoutez, ils réclament des excuses publiques hein, de la part du chef de l'État pour tout ce qui se passe, ce qu'ils appellent en quelque sorte le massacre de la démocratie béninoise. Ils réclament que l'opposition soit réintégrée dans le processus en cours et que les élections qui ont été organisées hier soient annulées. Un ultimatum de 24 heures a été donné au chef de l'État pour quand même en quelque sorte satisfaire ses exigences. C'est clair que le chef de l'État actuel, Patrice Talon, avec tout ce qui s'est passé par le passé, ne répondra pas.
À quel schéma politique peut-on alors s'attendre dans ce branle-bas? Est-ce un Parlement totalement acquis à la cause du président Patrice Talon? Ou est-ce qu'il y aura une possibilité d'inclure l'opposition dans le débat politique et qui, visiblement, risque d'aller en sens unique?
Ben écoutez, 83 députés acquis à la cause du chef de l'État, il n'y a pas d'opposition en quelque sorte. Maintenant, l'opposition on pourra toujours chercher à donner son point de vue sur ce qui va se passer, toujours commenter, analyser, mais n'aura pratiquement pas droit de citer pour influer sur ce qui va se passer au niveau du Parlement, parce que malheureusement, elle ne sera pas du tout représentée au niveau de l'hémicycle à Porto Novo.
Le journaliste et analyste politique Rodrigue Azinombe, joint à Parakou au Bénin.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au Mali, le gouvernement du nouveau Premier ministre Boubou Cissé n'est pas encore formé. Ce week-end, l'opposition a proposé un accord et posé des conditions pour son entrée au gouvernement. Pendant ce temps, la classe politique se prépare en dialogue national. Le point avec Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Bientôt deux semaines sans gouvernement au Mali. Tous les regards sont donc tournés vers le Premier ministre, chargé de mettre en place un gouvernement de large ouverture. L'opposition ne rejette pas sa participation à un tel gouvernement, mais elle pose de nouvelles conditions. Alexis Calambri est analyste et journaliste.
Effectivement, depuis la semaine dernière, le Premier ministre a commencé à consulter tout le monde. Dans ces consultations, certains ont souhaité qu'il y ait un accord politique écrit une sorte de feuille de route. Et je pense que c'est cette feuille de route qui bloque parce que depuis un certain temps, il y a un va-et-vient entre les partis politiques, la primature et Koulouba, où on est en train de s'entendre sur le minimum qu'il faut. Je pense que c'est une bonne chose jusque-là.
La contre-proposition du Premier ministre ne semble pas être du goût de l'opposition. Maître Demba Traoré de l'URD.
Nous gardons cette position parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire que nous fassions une ruée vers un attelage gouvernemental pour régler quoi. Nous avons accepté, nous avons fait violence d'accepter la main tendue d'aller vers le président de la République. Nous avons compris que le président a atteint ses limites, ça il faut le reconnaître. Le seul problème que nous avons aujourd'hui, c'est la gouvernance. Pour régler ces problèmes-là, il faut une gouvernance vertueuse.
De son côté, l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé a réuni la classe politique et la société civile pour parler du dialogue réformateur national.
Il est pour le départ, c'est le président de la République. Il annonce à la nation malienne, dans un message solennel, son intention d'initier un dialogue national réformateur. Second lieu, il missionne le gouvernement au fait d'organiser une conférence des forces politiques et sociales maliennes, dont l'objectif est de négocier un accord politique qui permettra de convenir d'un processus véritable de sortie de la crise. Les recommandations issues du dialogue national réformateur, consignées dans un rapport adressé au président de la République, auront force contraignante pour tous les gouvernements qui auront la charge de conduire les affaires publiques du Mali.
L'ancien ministre de l'administration territoriale, Ousmane Sy, trouve que le vrai dialogue national doit partir de la base au sommet.
Après avoir discuté, analysé la situation à l'échelle de chaque commune, les gens sortiront un cahier de propositions sur les problèmes qui vont être soumis. L'étape 2, ces cahiers de propositions vont au niveau 7 pour là ajouter les points de vue d'autres types de groupements. Après, on arrive au niveau régional en ajoutant les logiques administratives, les logiques partisanes, disons, pour enrichir et terminer par une synthèse nationale.
Aujourd'hui, la classe politique malienne est divisée entre ceux qui veulent un gouvernement d'union nationale et ceux qui posent comme préalable un dialogue national. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
L'Afrique du Sud s'apprête à tenir des élections générales le 8 mai. En dépit des problèmes économiques et des accusations de corruption, l'ANC, parti historique de la lutte contre l'apartheid, est donné favori. Quels sont les enjeux, les grands enjeux de ce scrutin? Morgane Guériec a joint Lieslou Vaudan, chercheuse à l'Institute for Security Studies à Johannesburg.
L'enjeu principal, c'est le score du président Cyril Ramaphosa et l'ANC. Nous n'avons pas d'élection présidentielle. Ramaphosa est populaire à travers le pays, mais l'enjeu principal, c'est de savoir si Cyril Ramaphosa va sortir avec une forte majorité. Sinon, si l'ANC va être affaibli, sa présidence sera affaiblie quelque part. Il n'y a pour l'instant, il n'y a pas vraiment une doute si l'ANC va gagner des élections.
25 ans après, l'ANC, parti historique de la lutte contre l'apartheid, est donc donné favori. Comment l'expliquer?
Le parti de Nelson Mandela, des grandes figures historiques de la lutte contre l'apartheid, mais ces dernières années, avec l'économie sud-africaine qui a beaucoup souffert, manque de croissance, beaucoup d'accusations de corruption, l'ancien président Jacob Zuma, il n'a pas réussi à faire avancer le pays. Aussi, l'ANC a perdu son élan, mais ça reste toujours le parti de Nelson Mandela, en fait.
Mais les jeunes qui n'ont pas connu l'apartheid, est-ce qu'ils voient les choses différemment?
Les jeunes voient des choses différemment. Il y en a qui accusent Nelson Mandela d'avoir vendu le pays en quelque sorte parce qu'on a négocié une transition après la fin de l'apartheid, mais beaucoup du pouvoir économique est toujours dans la main des Blancs et l'Afrique du Sud reste un pays très inégal. Donc les jeunes considèrent qu'on a le droit de vote, mais la pauvreté, le chômage des jeunes est à plus que 50%. Pour cette élection, il y a énormément de jeunes qui ne sont pas inscrits dans les listes électorales.
L'ANC toujours favori, parti historique, mais quand même, il y a d'autres partis qui commencent à lui faire de l'ombre, n'est-ce pas?
Le parti de l'opposition traditionnelle, l'Alliance démocratique, au mieux va faire 25%. Mais si jamais l'ANC a moins de 50%, il sera obligé d'être en alliance avec la, soit l'Alliance démocratique et le Parti libéral, ou le parti d'extrême gauche, le IFF, qui, eux, peuvent avoir autour de 10%.
C'était Lilou Vaudran, chercheuse à l'Institute for Security Studies à Johannesburg.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En Côte d'Ivoire, une vingtaine de pays africains d'Asie et d'Europe prennent part depuis samedi à la 9e édition du CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan. Un salon destiné surtout à promouvoir le tourisme sur le continent africain. D'Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Le CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan, une vitrine pour les participants en vue de faire connaître leur potentialité touristique. Bernice Martine Correa, directrice de l'Office du tourisme de Porto Novo, la capitale du Bénin.
C'est un moment de rencontre, de partage avec les professionnels du secteur pour ouvrir notre région sur le monde, aller à la rencontre des tour opérateurs, des agents de voyage, pour les inciter à désormais considérer notre région, notre pays, le Bénin, comme une nouvelle destination touristique.
Ravagé par une longue guerre civile qui a fortement terni son image et détruit son tourisme, la Sierra Leone veut reprendre sa place sur la scène touristique. Bakary Sako, de l'Office Sierra Leone du tourisme. La Sierra Leone est sûre, propre et pacifiée et réserve beaucoup d'agréables surprises. Venez visiter la Sierra Leone, venez découvrir notre écosystème, nos plages et apprécier notre hospitalité. Bienvenue en Sierra Leone, un endroit où il faut être et où il faut rester. Ce salon d'Abidjan n'est pas que l'affaire des pays africains. L'Asie est aussi présente. Priya est indienne. Elle est dans le milieu de la gastronomie.
On a plein de petits mets indiens que moi je présente sous la base de l'ambassade de l'Inde.
Est-ce que les Africains connaissent suffisamment l'Inde?
Bien sûr, ils sont très 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 proches de l'Inde, non seulement par la nourriture, mais on pourra dire d'abord par les films indiens. Parce qu'ils sont tellement basés sur les acteurs et tout, et bien ça fait plaisir.
Pour le commissaire général du CITA, Jean-Marie Sommé, l'objectif principal de ce salon est de promouvoir les activités touristiques en réunissant sur un même espace les professionnels du secteur.
L'objectif, c'est d'attirer, d'être un hub, attirer tous les pays africains qui ont un potentiel touristique qu'ils n'arrivent pas à vendre. Nous créons une synergie parce que le tourisme, c'est une force économique. C'est l'occasion de réunir tous les offices du tourisme en Côte d'Ivoire et ailleurs pour permettre le développement de ce secteur touristique dans la réflexion.
Jean-Marie Sommé demande plus d'investissement dans le secteur touristique. Il regrette au passage que le tourisme sur le continent soit toujours victime de la mauvaise image que certains tentent de coller à l'Afrique.
C'est la mauvaise image. Quand on parle de sécurité, on dit c'est l'Afrique. Mais le problème de la sécurité, c'est que c'est global. Vous avez des attentats partout. Il faut regarder le développement de ce secteur qui a un aspect économique. Mais il faut mettre en place les infrastructures. Il faut mettre en place les routes. Il faut mettre en place les aéroports.
Selon l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, 63 millions de touristes ont visité l'Afrique en 2017. Très peu en comparaison avec l'Europe et ses 672 millions de touristes, ou l'Asie et ses 323 millions de visiteurs. Les destinations les plus prisées sur le continent sont notamment le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Tunisie et le Kenya. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, nous avions Greg Burns. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et à Michel Joseph pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.